Chapitre 4. Le camp de Chartres. La plus belle, mon neveu, la plus belle. Savez ce que m'écrit le pape dans une lettre du 28 novembre, mais dont l'expédition a dû être quelque peu différée, ou bien dont le chevaucheur qui me la portait est allé me chercher où je n'étais pas, puisqu'elle ne m'est parvenue qu'hier soir à Arcy? Devinez. Eh bien, le Saint-Père, déplorant le désaccord que j'ai avec Nicolas Capocci, me fait reproche du manque de charité qui est entre nous. Je voudrais bien savoir comment je pourrais lui témoigner charité à Capocci. Je ne l'ai point revu depuis Breteuil, où il m'a brusquement faussé compagnie pour aller s'installer à Paris. Et qui donc est fautif du désaccord, sinon celui qui, à toute force, a voulu m'adjoindre ce prélat égoïste, borné, uniquement soucieux de ses aises, et dont les démarches n'ont d'autre dessein que de contrecarrer les miennes ? La paix générale, il n'en a cure. Tout ce qui lui importe, c'est que ce ne soit pas moi qui y parvienne. Manque de charité, la belle chose. Manque de charité. J'ai bonne raison de penser que Capocci tripote avec Simon de Bussy et qu'il fut pour quelque chose dans l'emprisonnement de Phébus, lequel, je vous rassure, oui, vous le saviez, fut relâché en août. Et grâce à qui ? À moi. Ça, vous ne le saviez pas. Sous la promesse qu'il rejoindrait l'host du roi. Enfin, le Saint-Père veut bien m'assurer qu'on me loue pour mes efforts et que mes activités sont approuvées non seulement par lui-même, mais par tout le collège des cardinaux. Je pense qu'il n'en écrit pas autant à l'autre. Mais il revient, comme il l'a déjà fait en octobre, sur son conseil d'inclure Charles de Navarre dans la paix générale. Je devine aisément qui lui souffle cela. C'est après l'évasion de Friquet de Fricamp que le roi Jean décida de transférer son gendre à Arleux, une forteresse de Picardie où tout autour sont des gens fort dévoués aux Dartois. Il craignait que Charles de Navarre, à Paris, ne bénéficiât de trop de complicité. Il ne voulait pas laisser Phébus et lui dans la même prison, voire la même ville. Et puis, ayant bradé l'affaire de Breteuil, comme je vous le contais hier, il revint à Chartres. Il m'avait dit « Nous parlerons à Chartres ». J'y fus, moi, tandis que Capocci faisait le vaniteux à Paris. « Où sommes-nous ici ?»« Brunet, le nom de ce bourg !» Et Poivre, avons-nous passé Poivre ? Ah bon, c'est en avant. On m'a dit que l'église en était digne d'être regardée. D'ailleurs, toutes ces églises de Champagne sont fort belles. C'est un pays de foi. Oh, je ne regrette pas d'avoir vu le camp de Chartres et j'eusse voulu que vous le vissiez aussi. Je sais, vous avez été dispensé de l'ost afin de suppléer votre père, malade, pour contenir les Anglais, vaille que vaille, hors de Périgord. Cela vous a peut-être sauvé d'être aujourd'hui couché sous une dalle dans un couvent de Poitiers. Peut-on savoir ? La Providence décide. Alors, imaginez Chartres. 60 000 hommes au bas mot, campant dans la vaste plaine que dominent les flèches de la cathédrale. L'une des plus grandes armées, sinon la plus grande, jamais réunie au royaume, mais séparée en deux parts bien distinctes. D'un côté, alignées en belles files par centaines et centaines, les tentes de soie ou de toile teinte des bannerets et des chevaliers. Le mouvement des hommes, des chevaux, des chariots produisait là un grand fourmillement de couleurs et d'acier sous le soleil, à perte de vue. Et c'était de ce côté que venaient installer leurs éventaires roulants les marchands d'armes, de harnais, de vin, de mangeailles, ainsi que les bordeliers amenant de pleins chariots de filles sous la surveillance du roi des Ribauds, dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom. Et puis, à bonne distance, bien séparés, comme dans les images du jugement dernier, d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer, les piétons, sans autre abri sur les blés coupés qu'une toile soutenue par un piquet, quand encore ils avaient pris le soin de s'en munir. Une immense plèbe au hasard répandue, lasse, sale, désœuvrée, qui se groupait par terroir et obéissait mal à des chefs improvisés. D'ailleurs, à quoi eût-elle obéi ? On ne lui donnait guère de tâches, on ne lui commandait aucune manœuvre. Toute l'occupation de ces gens, c'était la recherche de la nourriture. Les plus malins s'en allaient chaparder du côté des chevaliers, ou bien piller les basses-cours des hameaux voisins, ou bien braconner. Derrière chaque talus, on voyait trois gueux assis sur leurs talons, autour d'un lapin en train de rôtir. Il y avait de soudaines ruées vers les chariots qui distribuaient du pain d'orge à des heures irrégulières. Ce qui était régulier, c'était le passage du roi, chaque jour dans les rangs des piétons. Il inspectait les derniers arrivés. Un jour ceux de Beauvais, le lendemain ceux de Soissons, le surlendemain ceux d'Orléans et de Jargeau. il se faisait accompagner, entendez bien, de ses quatre fils, de son frère, du connétable, des deux maréchaux, de Jean d'Artois, de Tancarville, qui sais-je encore, du nuet d'écuyer. Une fois, qui se trouva être la dernière, vous allez voir pourquoi, il me convia comme s'il me rendait grand honneur. « Monseigneur de Périgord, demain, s'il plaît de me suivre, je vous emmène à la montrée. » Moi, j'attendais toujours de m'accorder avec lui sur quelques propositions, si vagues fussent-elles, à transmettre aux Anglais, pour pouvoir accrocher un commencement de négociation. J'avais proposé que les deux rois commissent des députés pour dresser la liste de tous les litiges entre les deux royaumes. Rien qu'avec cela, on pouvait discuter pendant 4 ans. Ou bien, je cherchais un autre abord tout différent. On feignait d'ignorer les litiges et l'on engageait les préliminaires sur les préparatifs d'une expédition commune vers Constantinople. L'important, c'était de commencer à parler. J'allais donc traîner ma robe rouge dans cette vaste pouillerie qui campait sur la Beauce. Je dis fort bien « pouillerie », car au retour, Brunet dut me chercher l'époux. Je ne pouvais tout de même pas repousser ces pauvres hères qui venaient baiser le bas de ma robe. L'odeur était encore plus incommodante qu'à Breteuil. La nuit précédente, un gros orage avait crevé et les piétons avaient dormi à même le sol détrempé. Leurs guenilles fumaient sous le soleil du matin et ils puaient ferme. L'archiprêtre, qui marchait devant le roi, s'arrêta. Décidément, il tenait grande place, l'archiprêtre. Et le roi s'arrêta et toute sa compagnie. « Sire, voici ceux de la prévôté de Bracieux dans le bailliage de Blois qui sont arrivés d'hier. Ils sont piteux. » De sa masse d'armes, l'archiprêtre désignait une 40aine de gueux dépenaillés, boueux, hirsutes. Ils n'étaient point rasés depuis 10 jours. Lavés, n'en parlons pas. La disparité de leurs vêtements se fondait dans une couleur grisâtre de crasse et de terre. Quelques-uns portaient des souliers crevés, d'autres avaient les jambes entourées seulement de mauvaises toiles, d'autres allaient pieds nus. Ils se redressaient pour faire bonne figure, mais leur regard était inquiet. Dame, ils n'attendaient pas de voir surgir devant eux le roi en personne, entouré de sa rutilante escorte. Et les gueux de Bracieux se tassaient les uns contre les autres. Les lames courbes et les pics à crocs de quelques vouges ou godendards pointaient au-dessus d'eux comme des épines hors d'un fagot fangeux. « Sire, reprit l'archiprêtre, ils sont 39, alors qu'ils devraient se trouver 50. 8 ont des godendards, 9 sont pourvus d'une épée, dont une très mauvaise. Un seul possède ensemble une épée et un godendard. L'un d'eux a une hache, 3 ont des bâtons ferrés, et un autre n'est armé que d'un couteau à pointe. Les autres n'ont rien du tout. » J'aurais eu envie de rire si je ne m'étais demandé ce qui poussait le roi à perdre ainsi son temps et celui de ses maréchaux à compter des épées rouillées. Qu'il se fît voir une fois, soit, c'était bonne chose, mais chaque jour, chaque matin, et pourquoi m'avoir convié à cette piètre montrée ? J'eus surprise alors d'entendre son plus jeune fils, Philippe, s'écrier du ton faux qu'ont les jouvenceaux quand ils veulent se poser en homme mûri. « Ce n'est certes point avec de telles levées que nous emporterons de grandes batailles. » Il n'a que 14 ans, sa voix muet, et il n'emplissait pas tout à fait sa chemise de maille. Son père lui caressa le front comme s'il se félicitait d'avoir donné naissance à un guerrier si avisé. Puis, s'adressant aux hommes de Bracieux, il demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas mieux pourvu d'armes ? Allons, pourquoi ? Est-ce ainsi qu'on se présente à mon hoste ? N'avez-vous pas reçu d'ordre de votre prévôt ?» Alors, un gaillard un peu moins tremblant que les autres, peut-être bien celui qui portait la seule hache, s'avança pour répondre. « Sire, notre maître, le prévôt nous a commandé de nous armer chacun selon notre état. On s'est pourvu comme on a pu. Ceux qui n'ont rien, c'est que leur état ne leur permet pas mieux. » Le roi Jean se retourna vers le connétable et les maréchaux, arborant cet air des gens qui sont satisfaits quand, même à leur détriment, les choses leur donnent raison. « Encore un prévôt qui n'a pas fait son devoir. Renvoyez-les, comme ceux de Saint-Fargeau, comme ceux de Soissons. Ils paieront l'amende. Loris, vous notez. » Car, ainsi qu'il me l'expliqua un moment après, ceux qui ne se présentaient pas à la montrée, où ils venaient sans armes et ne pouvaient combattre, étaient tenus de payer rachat. « Ce sont les amendes dues par tous ces piétons qui me fourniront le nécessaire pour solder mes chevaliers. » Une belle idée qui avait dû lui être glissée par Simon de Bussy et qu'il avait faite sienne. Voilà pourquoi il avait convoqué l'arrière-ban et voilà pourquoi il comptait avec une sorte de rapacité les détachements qu'il renvoyait dans leur foyer. « Quel emploi aurions-nous de cette piétaille ?» me dit-il encore. C'est à cause de ces troupes de pied que mon père a été battu à Crécy. La piétaille ralentit tout et empêche de chevaucher comme il convient. » Et chacun l'approuvait, sauf, je dois dire, le dauphin, qui semblait avoir une réflexion sur le bout des lèvres, mais la garda pour lui. Était-ce à dire que de l'autre côté du camp, du côté des bannières, des chevaux et des armures, tout allait à merveille ? En dépit des convocations répétées, et malgré les beaux règlements qui prescrivaient aux bannerets et capitaines d'inspecter deux fois le mois à l'improviste leurs hommes, armes et montures afin d'être toujours prêts à faire mouvement, et qui interdisaient de changer de chef ou de se retirer sans permission, à peine de perdre ses gages et d'être puni sans épargne, malgré tout cela, un bon tiers des chevaliers n'avait pas rejoint. D'autres, astreints à équiper une route ou compagnie d'au moins 25 lances, n'en présentaient que 10. Chemise de maille rompue, chapeau de fer bosselé, harnachement trop sec qui craquait à tout moment. « Eh, messire, comment pourrais-je y pourvoir ? Je n'ai point encore reçu mes soldes et j'ai assez d'entretenir ma propre armure. » On se battait pour referger les chevaux. Des chefs erraient dans le camp à la recherche de leurs troupes égarées et des traînards à la recherche plus ou moins de leurs chefs. D'une troupe à l'autre, on se chapardait la pièce de bois, le bout de cuir, la laine ou le marteau dont on avait besoin. Les maréchaux étaient assiégés de réclamations, et leurs têtes résonnaient des rudes paroles qu'échangeaient les bannerets coléreux. Le roi Jean n'en voulait rien savoir, il comptait les piétons qui paieraient rachat. Ils se dirigeaient vers la montrée de ceux de Saint-Aignan, quand arrivèrent au grand trot à travers le camp 6 hommes d'armes, leurs chevaux blancs d'écume, eux-mêmes la face ruisselante et l'armure poudreuse. L'un d'eux mit pied à terre, lourdement, demanda à parler au connétable, et s'en étant approché, lui dit « Je suis un messire de Boussicault dont je vous apporte nouvelle. » Le duc d'Athènes, d'un signe, invita le messager à faire son rapport au roi. Le messager esquissa le geste de mettre genoux en terre, mais ses pièces d'armure le gênaient. Le roi le dispensa de toute cérémonie et le pressa de parler. « Sire, messire de Boussicault est enfermé dans Romorantin. » Romorantin. L'escorte royale resta un moment toute muette de surprise et comme étonnée de la foudre. Romorantin, à 30 lieues seulement de Chartres, de l'autre côté de Blois. On n'imaginait pas que les Anglais puissent être si près. Car, durant que s'achevait le siège de Breteuil, que l'on envoyait Gaston Phébus en geôle, que le banc et l'arrière-banc lentement se rassemblaient à Chartres, le prince de Galles, comme vous le savez mieux que personne, Archambault, puisque vous étiez à protéger Périgueux, avait entrepris sa chevauchée à partir de Sainte-Foy et Bergerac, où il entrait en territoire royal, et continuait vers le nord par le chemin que nous avons suivi. Château-l'Évêque, Brantôme, Rochechouart, la Péruse, y produisant toutes ces dévastations que nous avons vues. On était informé de son progrès, et je dois dire que je n'étais pas sans surprise de voir le roi se complaire à Chartres, tandis que le prince Édouard ravageait le pays. On croyait celui-ci, aux dernières nouvelles reçues, quelque part encore entre la Châtre et Bourges. On pensait qu'il allait continuer sur Orléans, et c'était là que le roi se disait certain de lui livrer bataille, lui coupant la route de Paris. En vue de quoi, le connétable, tout de même inspiré par la prudence, avait envoyé un parti de 300 lances aux ordres de messire de Boussicault, de Craon et de Caumont en longue reconnaissance de l'autre côté de la Loire pour lui chercher les renseignements. Il n'en avait d'ailleurs reçu que bien peu. Et puis soudain, Romorantin. Le prince de Galles avait donc obliqué vers l'ouest. Le roi engagea le messager à poursuivre. D'abord, sire, messire de Chambly, que messire de Boussicault avait détaché à l'éclairer, s'est fait prendre du côté d'Aubigny-sur-Nère. « Ah, Grimouton est pris, » dit le roi, car c'est ainsi qu'on surnomme messire de Chambly. Le messager de Boussicault reprit. « Mais messire de Boussicault ne l'a point su assez tôt, et c'est ainsi que nous avons donné soudain dans l'avant-garde des Anglais. Nous les avons attaqués si roidement qu'ils se sont jetés en retraite. »«
Comme à leur ordinaire, » dit le roi Jean.
« Mais ils se sont rabattus sur leurs renforts qui étaient grandement plus nombreux que nous, et nous ont assaillis de toutes parts, au point que messire de Boussicault, de Craon et de Caumont nous ont menés rapidement sur Romorantin, où ils se sont enfermés, poursuivis par toute l'armée du prince Édouard, qui, à l'heure où messire de Boussicault m'a dépêché, commençait leur siège. Voilà, sire, ce que je dois vous dire. » Il se fit silence de nouveau. Puis le maréchal de Clermont eut un mouvement de colère. « Pourquoi diable avoir attaqué ? Ce n'était point ce qu'on leur avait commandé. « Leur faites-vous reproche de leur vaillance ?» lui répondit le maréchal d'Audrehem. Ils avaient débusqué l'ennemi, ils l'ont chargé. Belle vaillance, dit Clermont. Ils étaient 300 lances, ils en aperçoivent 20 et courent dessus sans plus attendre, en croyant que c'est grande prouesse. Et puis il en surgit 1000, et les voilà fuyant à leur tour et courant se mûcher au premier château. Maintenant, ils ne nous servent plus de rien. Ce n'est point de la vaillance, c'est de la sottise.
Les deux maréchaux se prenaient de bec, comme à l'accoutumée, et le connétable les laissait dire. Il n'aimait pas prendre parti, le connétable. C'était un homme plus courageux de corps que d'âme. Il préférait se faire appeler Athènes que Brienne, à cause de l'ancien connétable, son cousin décapité. Or, Brienne, c'était son fief, alors qu'Athènes, ce n'était qu'un vieux souvenir de famille, sans plus de réalité aucune, à moins d'une croisade. Ou peut-être simplement, il était devenu indifférent avec l'âge. Il avait longtemps commandé, et fort bien, les armées du roi de Naples. Il regrettait l'Italie parce qu'il regrettait sa jeunesse. L'archiprêtre, un peu en retrait, observait d'un air goguenard l'empoignade des maréchaux. Ce fut le roi qui mit fin à leur débat. « Et moi, je pense, dit-il, que leur revers nous sert, car voici l'Anglais fixé par un siège, et nous savons à présent où courir à lui, tandis qu'il y est retenu. » Il s'adressa alors au connétable. « Gautier, mettez l'ost en route demain à l'aurore. Séparez-le en plusieurs batailles qui passeront la Loire en divers points, là où sont les ponts, pour ne point nous ralentir, mais en gardant liaison étroite entre les batailles afin de les réunir à lieu nommé par-delà le fleuve. Pour moi, je passerai à Blois, et nous irons attaquer l'armée anglaise par revers à Romorantin, ou bien si elle s'avise d'en partir, nous lui couperons toute route devant elle. » Faites garder la Loire très loin après Tours, jusque à Angers, pour que jamais le duc de Lancastre, qui vient du pays normand, ne puisse se joindre au prince de Galles. Il surprenait son monde, Jean II. Soudain calme et maître de soi, le voici qui donnait des ordres clairs et fixait des chemins à son armée, comme s'il voyait toute la France devant lui. Interdire la Loire du côté de l'Anjou, la franchir en Touraine, être prêt soit à descendre vers le Berry, soit à couper la route du Poitou et de l'Angoumois, et au bout de tout cela, aller reprendre Bordeaux et l'Aquitaine. Et que la promptitude soit notre affaire, que la surprise joue à notre avantage. Chacun se redressait, prêt à l'action, une belle chevauchée qui s'annonçait. « Et qu'on renvoie toute la piétaille !» ordonna encore Jean II. « N'allons pas à un autre Crécy. » « Rien qu'en homme d'armes, nous serons encore 5 fois plus nombreux que ces méchants Anglais. » Ainsi, parce que voilà 10 ans, les archers et arbalétriers, engagés mal à propos, ont gêné les mouvements de la chevalerie et fait perdre une bataille, le roi Jean renonçait à avoir 7 fois aucune infanterie. Et ses chefs de bannière l'approuvaient, car tous avaient été à Crécy et ils en restaient tout meurtris. Ne pas commettre la même erreur, c'était leur grand souci. Seul le dauphin s'enhardit à dire « Ainsi, mon père, nous n'aurons point d'archer du tout. » Le roi ne daigna même pas lui répondre, et le dauphin, qui se trouvait rapproché de moi, me dit, comme s'il cherchait appui ou bien voulait que je ne le prisse pas pour un niais, « Les Anglais, eux, mettent leurs archers à cheval, mais nul ne consentirait chez nous à ce qu'on donne à chevaux à des gens du commun peuple. » Tiens, cela me rappelle. « Brunet !» Si le temps demain se maintient dans la douceur qu'il a, je ferai l'étape qui sera fort courte sur mon palefroid. Il faut me remettre un peu dans ma selle avant messe. Et puis je veux montrer aux gens de Châlons, en entrant dans leur ville, que je puis tout aussi bien chevaucher que leur fol évêque Chauveau, qui n'a toujours pas été remplacé. »